Moi, je crois beaucoup à la cohérence, à l'exemplarité. Il a fallu mettre des mots sur on joue à quoi, enfin, on croit en quoi, et dans quelqu'un, on dit ça, c'est OK, c'est nous, ça, c'est pas OK, ça nous va pas, ça nous heurte. Et c'est pas évident d'arriver à mettre des mots là-dessus.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur La Machine à Sens, votre podcast consacré aux entreprises à mission. Mon objectif est simple, que la notion de société à mission prenne forme pour vous, qu'elle nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable, et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter, et surtout, une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuzot, et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Dans cet épisode, je reçois Guillaume Pellegrin, président fondateur de Newton Offices, une entreprise marseillaise spécialisée dans les espaces de travail partagés. Oui, ok, le coworking, pour faire simple, et hôte du podcast Extramuros, qui, je cite, met en lumière les plus belles réussites en région. Alors, j'ai pas l'accent, hein, désolé, vous verrez. Et dont d'ailleurs, je suis un auditeur très régulier. Alors, je parle de Marseille parce que c'est la ville d'origine de Newton Offices, mais l'entreprise est installée un peu partout en France, sauf à Paris, volontairement. Elle existe depuis quelques années et est devenue société à mission en mai dernier, malgré le fait qu'ils aient un actionnaire américain. Vous verrez, on en discute un petit peu avec Guillaume, ça se passe très bien en fait. Avec lui, on s'est plongé dans l'univers du coworking, à l'heure où WeWork tremble. Mais en vrai, on s'est plutôt plongé dans l'univers du coworking à l'heure où le rôle, la place, voire l'intérêt du bureau est remis en question, où les sujets du Future of Work bouillonnent. Ce qui m'intéressait dans l'idée d'échanger avec Guillaume, c'était de mieux comprendre cette tendance du coworking et surtout son évolution. Beaucoup ont encore l'image soit du truc un peu bordélique, soit de la grande usine humaine où chacun cherche son espace pour sa prochaine visio. Mais en fait, tout ça a quand même pas mal changé. La particularité aussi de Newton, c'est que sa palette de métiers ne s'arrête pas à la gestion de lieux. Newton est propriétaire et a souvent été impliqué dans des travaux de construction, soit pour rénover, soit pour construire ces lieux. C'est intéressant de voir comment générer ces différents métiers, comment les mettre ensemble, et surtout, comment allier les enjeux sociaux et environnementaux avec l'activité de l'entreprise. Vous verrez, Guillaume a la tête sur les épaules, et un sérieux bagage dans l'immobilier et dans la finance. Vous verrez, plutôt utile dans son métier. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il est très carré, propre, réfléchi. Et j'aime beaucoup son approche. Et ça transpire énormément dans notre échange. Et surtout, quel plaisir aussi de mettre enfin un visage sur une voix. Allez, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'écoute. Bonjour Guillaume.
Bonjour Vivien.
C'est un vrai plaisir de t'accueillir sur le podcast et de voir enfin qui se cache derrière la voix que j'entends si fréquemment sur le podcast d'Extramuros. Mais bon, avant de se lancer dans notre échange, je vais faire une petite présentation de toi. Je te laisserai bien évidemment la compléter, l'amender, la corriger. Donc Guillaume Pellegrin, je dirais que tu es un homme ancré dans ton époque. Tu es Marseillais et issu d'une famille d'entrepreneurs, et ça c'est vraiment important. Tu es passé par HEC avant de travailler plusieurs années dans la finance à Paris, en combinant l'asset management et la gestion immobilière. En 2012, tu décides de combiner les trois traits que je trouve assez importants pour définir ta personnalité. Un, mal du pays, retour à Marseille, pour fonder Tivoli Capital, donc le côté entrepreneurial, où tu vas déployer tes compétences acquises chez Carlyle sur l'asset management et l'immobilier. Là, c'est vraiment la combinaison des trois, je ne sais pas si c'était volontaire. En 2017, tu crées Newton Offices, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Je te laisserai peut-être donner le nom de l'époque pour répondre à une problématique assez simple, c'est que des bureaux de coworking en région, c'est une combinaison de mots qui n'était pas très en vogue à l'époque.
Ouais, surtout avec l'accent marseillais.
Aujourd'hui, Newton Offices, c'est 8 lieux de coworking en région avec plusieurs autres qui sont en construction. Et j'utilise à dessein le terme de construction parce que c'est important, on le verra. Et si on est ensemble aujourd'hui, évidemment, c'est que Newton Offices est une entreprise à mission. On va quand même pas mal parler de ça aujourd'hui. Et j'ajouterai en cours de certification B Corp.
Alors là, tout à fait.
Bon courage.
Merci.
En complément de ton activité de dirigeant de Newton Offices, tu, et je te cite, mets en lumière les plus belles réussites en région dans le podcast Extramuros que je ne peux que conseiller à tous les auditeurs. Est-ce que tu souhaiterais ajouter, amender, corriger des éléments?
Non, je te remercie. C'est, Ça me fait bizarre d'entendre ma bio comme ça et de voir que tu as autant travaillé. Mais bravo, je te félicite. Merci.
Alors, je te propose qu'on revienne, pas forcément à l'origine de Newton Offices, mais en préparant l'entretien, parce que là, on n'enregistre pas dans un des coworking, des lieux de coworking de Newton Offices. Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de réflexions autour des lieux. Donc, je te propose qu'on fasse un exercice un peu virtuel.
Oui.
Où imaginons, on rentre dans un lieu, n'importe lequel, je te laisse choisir, et tu expliques un peu ce qu'on voit,
ouais.
L'ambiance qu'on pourrait découvrir en rentrant dans un de vos espaces.
Ok, j'accepte le challenge. Merci. Écoute, je vous emmène à Marseille, du coup. On va essayer de vous donner à voir ce que je découvre tous les matins quand j'arrive dans notre immeuble de la Joliette. Donc, la Joliette, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, c'est devenu le quartier d'affaires de cette ville où tu peux accéder maintenant en tramway, en métro, évidemment. Voiture, je conseille pas parce que au-delà de l'aspect carbone, ça roule très mal. Et puis toute mobilité douce. Tu arrives, t'es pas très loin de la mer, on est collé au port. Et quand tu passes la porte d'un Newton Offices, en l'occurrence celui de la Joliette, mais c'est vraiment ce qu'on veut partout ailleurs. On veut que tu rentres dans un univers qui t'apporte une bonne énergie. Et ça, ça a été hyper important dans la construction du projet Newton. Moi, comme tu l'as bien décrit, ça faisait longtemps que je faisais des immeubles de bureaux, mais je ne voulais pas avoir des immeubles de bureaux où tu te rends, où tu arrives et tu te sens un peu perdu, pas bien accueilli par quelqu'un d'un peu gêné ou par personne, dans des immeubles de double hauteur, des grands halls majestueux, mais froids et vides. Donc c'est tout le contraire qu'on voulait. On voulait que tu sois très vite accueilli par, bien à Marseille, par le sourire de Justine, de Petra, d'Élodie ou de Jean. Et que, en plus, tous tes sens soient mis en éveil sans que tu t'en rendes forcément compte. On a une signature olfactive. Alors là, ça va être dur de vous la décrire de vive voix. J'ai pas ce talent-là. Mais on a pas mal travaillé pour trouver ce qui nous ressemblait. Et je fais une petite parenthèse là-dessus. D'ailleurs, quand on a bossé avec la boîte qui a vu qu'on était des Méditerranéens, on a reçu des premiers échantillons. Ça sentait le monoï quasiment. Tu vois, la crème solaire. J'ai dit non, mais attendez, on est Marseillais, mais on bosse. Donc, aussi, on a trouvé quelque chose qui nous correspondait bien. Et puis, tu vas avoir une odeur de café aussi, parce que dès que tu vas arriver sur ce que nous, on appelait la place du pommier, on a tous une place du village, une agora. Bon, nous, évidemment, avec notre ami Newton qui s'est pris une pomme sur la tête, on a ce pommier qui nous suit dans tous nos immeubles. Et donc, quand tu arrives sur cette place du pommier, que tu as été bien accueilli par un vrai sourire de gens qu'on espère heureux de venir bosser pour Newton et accueillir et servir les gens au quotidien, tu vas pouvoir aller sur cette belle machine à café. Je fais de la pub pour Illy, qui est notre nouveau partenaire. Mais moi, j'adore le café. Donc, l'idée, c'était d'avoir du vrai bon café. Et tu peux aller te servir. Et si tu ne sais pas, quelqu'un va venir t'aider forcément à utiliser cette grosse machine à café comme dans les bars. Là aussi, c'était un peu un rêve que j'ai jamais... Je ne sais pas si tout le monde a eu l'idée d'avoir un bar un jour avec des potes, mais bon, il y avait quand même un peu de ça. Et en tout cas, il n'y a pas de barista, par exemple. Tu vois, nous, on a pris le parti dès l'instant où tu es client chez Newton, c'est un package et tout est inclus. Donc, tu vas pouvoir te faire ton café, on va t'aider à faire un super café. Tu vas démarrer ta journée comme ça, en croisant non seulement tes collègues de bureau qui arrivent à peu près à la même heure, mais plein d'autres têtes aussi, parce que dans l'immeuble de 5000 m² dans lequel tu viens de rentrer, il y a des dizaines de sociétés, des petites, des grosses, des moyennes. On a vraiment une clientèle qui est le reflet dans chaque ville du tissu entrepreneurial, du tissu économique local. On n'a pas un positionnement uniquement réservé start-up, par exemple, qui est souvent le cliché qui est véhiculé par les acteurs de coworking. Non, on a toujours voulu avoir un positionnement assez corporate, sérieux, sans se prendre au sérieux. C'est pour ça qu'on a pris ce nom de Newton, qui est ce génie, mais qui s'est pris une pomme sur la tête et qui, du coup, est limite plus connu pour ça que pour le reste. Alors qu'il a trouvé pas mal d'autres trucs assez intéressants, notamment les Newton-mètres, c'est la poussée des fusées, la réfraction de la lumière, hein, qui a donné lieu à des, des pochettes de disques célèbres. C'est Newton et la lumière est hyper importante pour nous. Chez nous, les Méditerranéens que nous sommes, c'est quand même aussi ce qui caractérise notre région et qu'on voulait trouver partout dans nos immeubles en France. Et on est à Lille et on travaille la lumière là-bas également. Voilà, donc je te fais une intro un peu longue, mais du coup, et pour autant, on est qu'au rez-de-chaussée là, tu vois. On est que dans ce socle. Alors désolé pour le gros mot hospitality, mais en tout cas accueil, service, serviciel de Newton, où on veut que tu prennes cette bonne dose d'énergie, que tu aies eu cet accueil, ce café, tu peux aller faire ta réunion avec tes collègues ou tes partenaires ou clients, parce que vous avez loué une grande salle de réunion, elle est là, tu vas passer à côté du vestiaire et des douches ou de la salle de sport que tu iras utiliser entre midi et deux. Et après, tu vas monter à l'étage. Alors, si puisque pour l'instant, tu n'as qu'une boîte de moins de 30 personnes, chez nous, tu as pris un bureau de 2 et un bureau de 4, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous êtes organisé à Marseille. Mais à Lyon, chez nous aussi, à Vez, tu as pris un bureau de 6, parce que tu as tes équipes là-bas.
Donc avec des espaces privatifs, en fait, il y a à la fois espaces un peu larges, partagés, et puis des espaces privatifs.
Tout à fait. Ouais. Et c'est clairement le cœur de notre offre, c'est du bureau privatif. C'est pas, là aussi, je casse un autre cliché, des grands benches d'open space, ouverts aux quatre vents, où il n'y a aucune confidentialité, où ton dossier peut être vu par tout le monde, où tes datas vont être piratées parce qu'il y a du wifi. Non, voilà, il y a des boîtes qui sont secret défense chez nous. Ce sont des bureaux privatifs, tu as ton badge, tu as ta clé pour y accéder, tu y laisses tes affaires tant que tu restes là, tu peux signer chez nous un an, un mois, un an, 6 ans, tu es le bienvenu. Tant que tu veux rester, on sera content. Mais sur cet étage, pendant ta visio, si tu voudras aller à la fontaine à eau ou prendre un petit café aussi pendant ta visio ou ton conf-call, tu n'auras pas besoin de redescendre à cette place du pommier. Voilà. Quand tu auras une boîte plus grosse et quand tu auras passé vraiment 50 postes de travail ou 30 et que tu voudras avoir des locaux à ton image, parce que vous c'est moins le rouge mais c'est le bleu et que tu veux du bleu sur les murs et que le mobilier tu veux qu'il soit tu veux des tables qui montent qui descendent etc et ben ça on pourra te le faire aussi et on te privatisera un étage ou un demi-étage et voilà et c'est comme ça que à Marseille tu vas pouvoir croiser le consulat du Brésil qui a pris l'immeuble qui a pris un étage entier chez nous.
Ah ouais,
voilà pour bien illustrer aussi que c'est pas réservé uniquement aux petites sociétés aux startups en démarrage ou qui viennent de sortir de l'incubateur.
Ouais, non, ça peut être aussi des organisations de quelques siècles.
Oui, en l'occurrence.
comme le Brésil. Intéressant, effectivement, comme petite visite. Et j'imagine qu'après, ça peut peut-être changer, mais on y reviendra peut-être d'une ville à une autre. Mais il y a une dimension qui est vraiment très centrale dans le développement de Newton Offices, c'est le développement en région.
Oui.
Parce que, alors certes, là on enregistre à Paris, mais bon, c'est l'effet du hasard, c'est vraiment l'effet du hasard, puisque Newton Offices n'a pas d'espace de coworking à Paris, et jusqu'à présent, en fait, c'est dans différentes villes de France.
Oui.
Pourquoi ce choix ?
Tu l'as bien noté, on est né à Marseille, où moi je suis retourné vivre il y a plus de 10 ans maintenant. Et. Quand j'ai lancé ce qui était I Love Vite, puis devenu Newton, on a ouvert le 2 janvier 2017, avec 700 mètres carrés à la Joliette, sur le deuxième étage de l'immeuble Joliette. Et WeWork n'avait pas encore ouvert, ils ouvraient de mémoire en avril 2017, rue Lafayette à Paris. Et WeWork, c'était avec d'autres acteurs anglo-saxons, ceux qui m'avaient fait réfléchir au nouveau modèle de bureau. Et comme je te le disais, c'était un produit, une classe d'actifs immobiliers, l'immeuble de bureau, que je connaissais bien depuis quelques années. Et en voyant comment WeWork ou d'autres acteurs remplissaient des immeubles à Londres, à Amsterdam, alors que d'autres acteurs plus classiques de l'immobilier en France, dans des endroits top, avec des immeubles tout neufs, aux derniers standards environnementaux et autres, galéraient à remplir. Je me dis, il y a un sujet. En voyant aussi que moi, avec ma société, l'investisseur qui est Tivoli Capital, qui a créé du coup Newton, qui est à l'origine de Newton, je recrutais, je voulais des locaux, mais je ne voulais pas signer de bail, c'était un autre sujet. pour moi. Je me dis, tiens, il y a quand même un problème. Et puis ensuite, quand du coup, je regardais à cette époque-là tout ce qui marchait vraiment fort dans l'économie et qui faisait évoluer notre économie, en fait, et les business models des entreprises, c'était souvent, mon constat, c'était souvent ce qui était des plateformes. Tu prenais Blablacar, il te dit, mais non, moi je suis une plateforme qui met en relation des gens qui ont des bagnoles, des gens qui veulent se déplacer. Et tu prenais après Spotify ou Qobuz ou Deezer pour parler de français. Voilà, ça remplace le disque dur, là, pour objet physique, par j'écoute de la musique, etc. Tu pouvais, voilà, je m'arrête là, mais tu peux prendre plein d'exemples où en fait on ne veut plus posséder, on veut utiliser. Et là, je me dis, bon, attends, ça fait beaucoup d'éléments quand même. Moi, je suis dans l'immobilier. Il n'y a pas plus...
Physique.
Il n'y a pas plus... qui incarne plus ce côté immobile, transmission. Voilà. Et en fait, si on ne veut plus posséder, on veut utiliser, il faut... Bah oui, la réponse, elle est dans ces pays anglo-saxons. Mais... Ne faisons pas un copier-coller du truc cool qui marche à Londres. Comment est-ce qu'on l'adapte à Marseille, par extension aux autres villes de région, ou en tout cas à la France. Et étant donné qu'on était déjà à Marseille, évidemment la question s'est posée, c'est cette bonne question que tu poses aussi, est-ce qu'on va tout de suite à Paris? Et finalement, je voyais que... il y avait déjà, évidemment, comme d'hab, les acteurs internationaux arrivent par la capitale. Et du coup, il y avait plus du coup de concurrence à cet endroit-là. Et assez vite, on a eu un modèle d'investisseurs et d'opérateurs, ce qui est assez particulier sur ce secteur-là. En général, mes confrères, pour la plupart, pas rentrer dans tous les détails, mais pour la plupart, sont uniquement locataires de leurs immeubles. Nous, on a pris le parti dès le début d'acheter les murs et d'opérer un peu comme tu peux être propriétaire de tes murs d'hôtel et que tu gères ton hôtel. Et pour ça, on est très fiers et ravis d'avoir un partenaire comme le fonds d'investissement KKR, que je salue, dont le siège est à New York, mais le siège européen est à Londres, et qui nous a fait confiance pour en fait, déployer un portefeuille top, un portefeuille qu'on appelle Prime, d'immeubles de bureaux, on y reviendra sur la qualité environnementale de ces immeubles-là en France, et avec une certaine... évidemment, des exigences de rentabilité. Et finalement, on se rendait compte que notre modèle aussi, d'un point de vue économique, il marchait mieux en région qu'à Paris. Et c'est pour ça aussi qu'on a privilégié ce déploiement d'abord dans les métropoles de région, où il y a des vrais marchés tertiaires, où il y a des vraies belles boîtes. Et c'est ce que moi aussi, du coup, j'essaie de mettre en avant dans Extramuros, dans le podcast. C'est un peu cette stratégie d'océan bleu. On va laisser les autres essayer de prendre leur part de marché à Paris, mais nous, pendant ce temps-là, on va prendre les bons emplacements en région.
D'accord. Ce qui fait sens et peut-être encore plus dans le contexte actuel, parce que si on regarde un petit peu, et voilà, c'est pas non plus un historique, mais si on regarde le coworking tel qu'il pouvait être en 2017 et le coworking aujourd'hui, est-ce que toi tu as senti un effet Covid? Paris c'est bien, mais il n'y a pas que Paris dans la vie. Et puis justement, le déploiement de nouvelles agences ou de nouvelles entreprises en région, d'autres manières de travailler. Comment est-ce que tu interprètes l'évolution du coworking, ce qui permettra quand même aussi d'expliquer que tu reviendras dessus probablement, mais le coworking c'est pas juste des grands benches
Oui, évidemment, on a le Covid a accéléré plein de choses qui étaient là. Voilà. Mais le premier enseignement que j'en tire, c'est de voir que ça a fait évoluer l'image qu'avaient les dirigeants des boîtes sur l'outil de travail du quotidien qu'est l'immeuble de bureau. Bien souvent, jusqu'au confinement forcé qu'on avait vécu en 2020, les gens s'étaient pas vraiment posé la question. Ça faisait 10 ans qu'ils allaient dans les mêmes, aux mêmes endroits, qu'ils prenaient leur RER, leur bagnole, qu'ils arrivaient, qu'ils croisaient Christine dans l'entrée, etc. Et puis il y avait cette routine. Et puis elle a été cassée de façon assez forte. Or nous, tu l'as bien noté, on est né en 2017, donc avant le Covid. Et à partir de 2017, on a commencé à prendre le bâton de pèlerin, c'est moi le jeu de mots, et pour expliquer que ça pouvait être un peu différent, un immeuble de bureau, et qu'on voyait ça différemment, nous. On signait juste des baux sur 6 ans ferme. Mais quand t'as signé un bail, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'as rien. Enfin, t'as un plateau nu. Et du coup, tu vas gérer tes travaux. Et puis, du coup, tu vas te gérer des dizaines de contrats pour que ton immeuble il fonctionne bien. Qui passe par l'internet, la sécurité, le recyclage, plein de trucs. Et ça, en général aussi, ça se fait après avoir cherché pendant 9 mois tes bureaux. Et signer un bail, c'est pas très cool en soi, quoi. C'est pas très. Voilà. C'est un peu lourd. Donc ça correspond pas à tout le monde. Et on expliquait du coup depuis 2017 que tu pouvais faire beaucoup plus simple et que plutôt que d'aller tout gérer toi-même, tu pouvais avoir un format beaucoup plus facile, beaucoup plus léger, qui est le contrat de prestation de service que tu peux signer avec Newton, qui te permet du jour au lendemain d'avoir un outil qui fonctionne, qui est du coup un bon outil de travail que nous on a réfléchi, pensé, comme je te disais, l'acoustique, la lumière, etc. Mais ça, après, ça suffisait pas. Et c'était la révolution du coworking. Et c'est plus que ça. C'était de rajouter à côté du workplace, de l'espace de travail, des services et l'intuition même de je pense, que en tout cas, c'est ce qu'avait amené le fondateur de WeWork, c'est d'arriver à créer cette idée de communauté aussi, de créer une communauté dans l'immeuble. Nous, moi, cette idée de communauté, je l'ai prise avec prudence. Je voulais que ce soit des espaces corporate, que des avocats puissent venir, qu'un consulat à terme puisse venir, que EDF puisse venir, que moi je puisse y être avec mes salariés sans me sentir forcé de devenir pote avec tout le monde et de taper sur l'épaule de 48 personnes quand j'arrive le matin. Mais force a été de constater que cette communauté s'est créée parce que justement on a créé un espace où les gens pouvaient se croiser. Comme tu amènes des événements aussi et que tu animes ce lieu, bien, au final, une communauté se crée et du business se crée. On a eu, et c'est intéressant. Enfin, nous, on a pu constater, on n'a jamais voulu dire on est un immeuble monothématique sur un certain secteur d'activité, que ce soit la pharmacie ou j'en sais rien, la santé ou le numérique ou autre. Et justement, ça crée une richesse qui font que bah, une boîte de com peut être à côté d'une boîte qui fait, je sais pas, du conseil bah, et puis ils vont bosser ensemble. Ouais. Donc, c'est un peu une longue réponse, mais pour te dire que tout ce qu'on avait imaginé en se disant il faudra du bien-être au travail, il faudra des espaces pour que qui semblent perdus pour que les gens se croisent, il faudra amener du bien-être au travail, il faudra amener de l'animation, des événements. Bon, quand on expliquait ça à ceux qui avaient 30 ans d'habitude de bail commercial, ils disaient bon, vous êtes sympas, les.
Ouais, pas besoin de vous.
Ça sert pas à grand-chose, quoi. Enfin, ils disaient ok, merci. Allez. Quand tu t'es payé ce confinement-là, ou ces confinements, et que tu t'es rendu compte qu'en fait, le lieu de travail était un espace social, un espace où les gens créent de la valeur autour de la machine à café, quelque part, ces temps perdus où tu transmets une info, tu transmets une culture, où tu formes les gens, et, alors pas autour de la machine à café, mais dans les bureaux, on s'est bien rendu compte qu'on était des animaux sociaux et qu'on avait besoin d'aller sur un lieu de. Et que ce lieu avait besoin d'être agréable, bien pensé et animé. Et du coup, depuis le début, ce qu'on apporte avec nos équipes sur ces sites-là, qui sont, un, la gestion des services du quotidien, il faut que l'imprimante, elle marche, et que le scanner fonctionne, il faut que le Wi-Fi ne saute pas, etc. Il faut que la salle de réunion soit installée, et puis nettoyée après, et puis réinstallée. Bon. Tout ça, on gère. Et après, tout ce qui va être autour du bien-être, c'est géré par nos équipes aussi. Le prof de yoga, le prof pour le préparer dans semi-marathon, le truc, tout ça, on peut te l'organiser. Et dernier truc, et qui nous a été, ou là aussi le Covid, entre guillemets, nous a aidé, c'est tout ce qui va être autour de l'animation qui va créer comme ça ces communautés. Parce que, et ça va être animé par nos équipes qui vont faire un petit déj par mois, ou un goûter, ou un déj, ou peu importe. Le soir, depuis le Covid, je trouve que ça marche moins bien, les after-work, ouais. Les gens ont envie de rentrer chez eux. Mais là, Noël arrivera, il y a eu Halloween, il peut y avoir des trucs comme ça, t'es un peu des marronniers. Et puis, monter des ateliers aussi, sur la nutrition, ou sur d'autres choses, pour que les gens se forment aussi entre midi et deux, et s'ouvrent un peu l'esprit. Ou carrément, un truc plus, formation de ChatGPT demain, et puis voilà, où là, tu vas aussi progresser et mutualiser, et mettre en commun des moyens pour pouvoir grandir ensemble, tout simplement, et te payer des trucs que tu ne serais peut-être pas payé tout seul. Voilà.
Ouais, c'est limite presque plus attirant que d'avoir ton propre immeuble à t'écouter.
Mais, merci, merci. On signe après le podcast. Le contrat. Mais ça, voilà, c'est un peu une longue réponse, mais pour te dire que ça, ça a été accéléré, c'est-à-dire la perception qu'ont les entreprises en général de l'intérêt d'aller dans un immeuble où il y a du service comme Newton. C'était du coup les premiers early adopters, les premiers qui sont allés vers ces solutions-là étaient évidemment plutôt des TPE, un peu agiles, un peu cool, voilà. Mais comme je te dis, maintenant, voilà, on a des clients comme très institutionnels. On a EY, on a EDF, on a des consulats. Parce qu'ils viennent chercher du service, on est capable de gérer les travaux, on est capable de doser le bon niveau de service que je viens de te décrire pour leur quotidien, de leur foutre à la paix s'ils ont envie d'être tranquilles aussi, et ça, voilà, ça on le comprend bien. Donc ça, c'est le premier gros volet de l'accélération, grâce, entre guillemets, à ce satané Covid. L'autre sujet, ben, c'est en fait l'évolution des modes de travail. On a tous expérimenté ces visios un peu foireuses pendant le Covid. Attends, coupe ta caméra, ça coupe. Voilà, bon, ça y est, ça, depuis, tous les acteurs, les quelques acteurs qui ont pris, je ne vais pas les citer, mais qu'on utilise à peu près tous les jours pour faire des visios. Moi, ça m'arrive parfois, au lieu de prendre le téléphone, on fait une visio sans la caméra. Tu dis, bon, attends, je vais t'appeler, ça marche mieux. Tu vois, mais ça a été une vraie révolution. Ça, plus, je pense, des chefs d'entreprise, des dirigeants assez ouverts d'esprit après le Covid, se dire, on a testé, ça marche, c'était à distance, donc télétravail, pourquoi pas. Ça, plus une pénurie de talents ou de main-d'œuvre, un plein emploi sur certains métiers, ont fait que tu envisages tout à fait, enfin, les organisations testent depuis des mois le fait d'avoir des bureaux, ton siège qui est toujours à Paris, mais... vous étiez 12 à Marseille, allez chez Newton. Il y en a un qui est à Lyon, allez chez Newton aussi, ou chez le concurrent. Et comme ça, il y a ce test depuis quelques mois. Et je pense que ce n'est pas terminé. On va voir où ça atterrit. Les questions il y a 2 ans, c'était est-ce qu'il faut 1 jour, 2 jours ou 3 jours de télétravail. Bon, chacun a apporté sa réponse dans sa boîte. Je pense que c'est encore en train d'évoluer. Et nous, on a permis ça aussi. C'est-à-dire que c'est tellement facile de venir prendre un bureau chez nous qu'on a été acteur quelque part, en tout cas on a permis, on a été une plateforme là aussi pour qu'il y ait ces évolutions. Dernier point, je trouve que la Covid a amené une, en tout cas c'est concomitant, une prise de conscience plus généralisée des problèmes écologiques, en tout cas, puis le rapport du GIEC et puis tout ce qu'on... font que je trouve qu'il y a une conscience qui est de plus en plus partagée, de moins en moins contestée du problème du carbone dans lequel on est.
Pour un petit moment encore.
Et donc, si tu es dans une passoire thermique, c'est-à-dire si ton immeuble est complètement obsolète, qui produit énormément de CO2 pour chauffer et refroidir, qu'il est inaccessible en transport en commun... qu'en plus tu mets du temps pour y aller, voilà. C'est là que tu vois bien que très vite il y a des salariés qui disent non, mais c'est là je pense que tu dis je préfère gagner moins et y aller ailleurs. Nous c'est plutôt l'inverse, on a des immeubles labellisés à chaque fois, on est hyper exigeant, enfin, on n'est pas parfait, on fait pas tout bien, mais on fait vraiment sincèrement attention à ce qu'on fait, que ce soit sur les matériaux qu'on utilise, nos moquettes. Je t'ai pas dit quand je t'ai fait faire la visite, mais la moquette sur laquelle tu marchais, c'est des filets de pêche recyclés et c'est recyclable. Mais voilà, c'est un petit exemple. On fait attention à pas mal de choses. Et du coup, le fait de venir chez Newton fait que, d'un point de vue RSE, tu as peut-être fait un saut qualitatif, tu vois. Et ça, c'est souvent apprécié aussi par nos clients qui... pas uniquement ceux qui veulent faire une plaquette en fin d'année pour rassurer je sais pas qui, mais ceux qui se posent vraiment la question de comment on gère la température, quel matériau on a utilisé, quelles actions on met en place. Bon, on va y venir, mais on est aussi un partenaire de leur exigence RSE.
Et c'est intéressant comme la manière dont tu présentes ça. Il y a un acteur assez incontournable dont tu as déjà parlé à quelques reprises, donc c'est WeWork.
Oui.
Bon, je ne sais pas si on peut le dire que c'est un pionnier du coworking, mais en tout cas, c'est celui qui a vraiment fait que le coworking est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'on peut au moins lui attribuer ça. Il va très très mal aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que en préparant cet entretien, tu tapes coworking sur internet et tu regardes un petit peu les actus et t'as WeWork, fin de WeWork, est-ce la fin du coworking? Quelle est ta position? Parce que alors, tu viens de passer un petit peu de temps à nous expliquer pourquoi le coworking avait changé avec le Covid et en même temps t'as WeWork qui est en train de s'écrouler. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux?
Merci de poser la question. Tu vois, j'ai presque envie de te poser la question, est-ce que des boîtes ont déjà fait faillite dans un secteur et est-ce que le secteur a disparu? Tu vois, évidemment, malheureusement, des boîtes font faillite et pour autant, ça ne veut pas dire que le secteur, il n'y a pas de secteur, qu'il n'y a pas de marché et qu'il n'y a pas de modèle économique viable. Ce que je dis, c'est qu'ils ont des engagements avec des dettes et des loyers très élevés et que c'est dur à supporter. En tout cas, c'est sûr que si c'est le cas, je peux le témoigner, que si tu as un coût fixe, ton principal coût fixe en tant qu'opérateur, c'est ton loyer, après tu as tes salaires, et que si tu ne sais pas répercuter ça sur un chiffre d'affaires qui va bien sur ton marché, t'es en galère. Et c'est un complément de réponse à la question que tu posais tout à l'heure sur pourquoi les régions. C'est que moi, je trouve qu'on a un modèle économique qui marche bien entre les loyers qu'on trouve en général en région, même si nous, on est propriétaire de nos murs, mais on s'applique un loyer aussi de marché. Et l'équipe, et est-ce que tu arrives à refacturer à tes clients finaux, quoi. Voilà. Donc, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure aussi, moi je reconnais à WeWork cette qualité, cette vision qui a permis en fait de faire évoluer le centre d'affaires, parce que c'est pas eux qui ont inventé les bureaux flexibles, privatifs, et des acteurs bien connus. Notamment Regus ou d'autres acteurs qui étaient là depuis plus longtemps et qui d'ailleurs encore aujourd'hui vont bien. Donc déjà c'est aussi un premier élément de réponse, c'est que ils étaient là avant, ils sont là après et ils ont peut-être pas fait les mêmes choix économiques. Pour finir sur ce point-là, il y a un modèle économique qui fonctionne. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de te dire. J'ai jamais été trop start-up. Ça peut peut-être sembler paradoxal quand tu fais du coworking, mais moi je suis focalisé sur mes taux de marge. L'autre fois j'en parlais avec un copain qui me disait ton chiffre d'affaires. J'ai dit oui, mon chiffre d'affaires, mais bon, ce que je regarde tous les mois c'est le taux de marge, quoi. Est-ce qu'on est là où on devait être?
C'est ton passé en asset management qui remonte là.
Franchement, je pense que c'est mon éducation, pas de paysan, mais de bon sens, quoi. Et à un moment, si t'embarques des cinquantaines de salariés, c'est pas pour... je dis pas que ça ne marche pas, mais c'est un truc qui me semble moins à l'aise, dans lequel je suis moins à l'aise d'aller lever pendant que tu crames encore beaucoup. C'est un truc où je sais beaucoup moins bien faire, et il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Le problème qu'on a dans notre business model, c'est qu'un immeuble, au bout d'un moment, il ne peut pas cracher deux fois plus en revenus que ce qu'il génère déjà aujourd'hui.
C'est difficile de scaler un immeuble.
C'est pas une appli, c'est pas un service que tu peux acheter en ligne et qui, du coup, si ton serveur ne saute pas, tu vas doubler, tripler tes ventes. Non. Nous, il y a un moment, les mètres carrés, ils sont là. Et donc, si tu veux faire de la marge, une façon, c'est contrôler tes coûts.
Je rajouterai un point sur WeWork, mais je comprends que tu ne puisses pas trop le dire. C'est la gestion assez désastreuse en interne. Si on suit un petit peu tout ce qui a pu sortir, c'est plus ancien, mais je pense que structurellement, il y avait quand même quelques petits soucis.
En tout cas, j'ai vu We Crashed.
Ouais.
Je me suis trouvé très... chiant.
Ah bah... c'est vrai que si tous les lundis matins, tu dis pas c'est lundi, c'est génial, on fait une grande partie...
Je me suis trouvé un ennui. Mais bon.
Tu disais, on est propriétaire de nos immeubles. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que c'est un choix qui est quand même assez risqué. En termes de capitaux, c'est costaud à gérer, beaucoup plus que de faire de la location. Donc pourquoi avoir fait ce choix?
Ça demande évidemment beaucoup plus de capitaux, mais je trouve pas que ce soit plus risqué. Parce qu'en fait, on vient du secteur de l'investissement de bureau, donc on a l'impression de... Non, c'est pas qu'on a que l'impression, c'est que normalement, c'est à peu près là où on investit. Et le plan A, à chaque fois, quand on investit, c'est l'activité Newton qui va mélanger pourquoi pas quelques plateaux en bail commercial, le reste en flex, en contrat de prestation de service, va fonctionner, on sera plein, on va générer un sur-revenu par rapport à ce que l'immeuble aurait généré s'il n'y avait pas Newton pour l'opérer. Et donc, on va avoir la rentabilité qu'on veut. Le plan B, c'est quoi ? C'est que si tu es quand même convaincu que cet immeuble est au bon endroit, qu'il est au pied du métro et qu'il est au bon standard environnemental, qu'il a été bien construit, au pire, tu le loueras en bail commercial et tu vas gagner moins. Mais le plan B, il est pas cata. Et tu as quand même un bel actif. Si à l'inverse, tu n'es que locataire, c'est peut-être le problème de WeWork avec ses engagements de loyer. Si ça marche pas, tu es quand même collé 6 ans ou 9 ans parce que tu as négocié de la franchise du loyer, tu as négocié des trucs pour pouvoir être là. Mais le jour où tu es censé payer plein pot, tu dois payer un revenu. Et en même temps, tu n'as pas constitué de ce patrimoine que nous, on constitue. Et c'est pour ça qu'on a un partenaire qui est un investisseur immobilier. C'est-à-dire que sinon, il aurait fallu aller chercher quelqu'un d'autre dans le métier d'investir dans des boîtes. Et il y a beaucoup d'acteurs qui font ça très bien aussi.
Et pour les éditeurs, pour bien comprendre, quand tu dis t'es propriétaire, vous êtes propriétaire des immeubles, est-ce que vous les construisez ? Est-ce que vous prenez déjà des immeubles existants et vous les réhabilitez ? Ouais. Comment ça se passe ?
L'idée de base, c'était d'acheter des immeubles existants, comme celui de Marseille, qui était un immeuble de logement haussmannien et qui a été reconverti en immeuble de bureau. Et évidemment, d'être aux bons endroits de bureaux dans les villes. Et en fait, on s'est rendu compte que les villes sont vivantes, que les quartiers bougent, évoluent, et que surtout, notamment les quartiers d'affaires. Et quand on a acheté à Montpellier, quand on est arrivé à Lyon, quand on est arrivé dans la métropole lilloise, etc., en fait, il fallait construire au bon endroit, pas forcément artificialisé, mais construire des immeubles neufs. Du coup, d'un point de vue modèle économique, ça a un peu décalé ce qu'on avait prévu de faire. C'est-à-dire, quand tu achètes un truc existant, tu rénoves plus ou moins rapidement et tu ouvres. Là, on s'est pris 2 ans dans la vue. Mais le gros avantage, comme je te le disais tout à l'heure, on a une douzaine d'immeubles neufs, labellisés, qui du coup, d'un point de vue environnemental, sont bien plus performants en termes de consommation et donc de production de CO2, des immeubles qu'on aurait pu récupérer qui structurellement sont moins bons.
Ça m'amène à poser une question. Là, on va passer un petit peu sur la culture, le management, ouais. L'organisation, à une question sur, de fait, la diversité des métiers qu'il y a au sein de Newton Offices, parce que il y a à la fois le secteur de la construction, en tout cas c'est du maître d'œuvre en fait dans certains cas de figure, de l'hospitality comme on dit de nos jours, c'est un peu l'animation des lieux, etc. Il y a l'aspect très financier aussi. Enfin, il y a une pluralité, j'imagine, de profils à l'intérieur de l'équipe. Comment ça s'est passé, cette évolution de l'équipe, parce que j'imagine que déjà vous êtes combien aujourd'hui et comment ça s'est structuré, parce que ça doit, je vais pas dire partir dans tous les sens, mais entre des gens qui gèrent des lieux et qui animent des lieux et des gens qui gèrent la construction d'un immeuble, c'est quand même pas tout à fait les mêmes profils, quoi.
Ouais, tout à fait. Au tout début, on était trois, quoi, et très peu nombreux. Moi, je faisais les chiffres avec Dorian. On avait une personne qui était plutôt sur la partie opérationnelle, une autre sur la partie architecturale, et puis on a démarré comme ça. Et c'est un peu comme les cellules souches après, tu vois, ça s'est spécialisé. On est une cinquantaine aujourd'hui, en comprenant les gens qui gèrent les sites. Et pour répondre aussi à la question tout à l'heure, on achète des produits finis qui sont pour simplifier grandement, qui est l'immeuble. Tu vois. Donc on achète à des promoteurs, sur la base d'un gros cahier des charges qu'on détaille, un immeuble de bureau, quand on achète un immeuble neuf. Et pour ça, du coup, on a une équipe immobilière qui était prépondérante au début, parce que quand on a acheté beaucoup de VFA, d'immeubles, c'est-à-dire vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire donc des immeubles à construire, il fallait avoir ce savoir-faire en interne pour définir ce cahier des charges. Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter 10 000 m² à Lyon ? Tu vois, il va falloir un peu détailler quand même ce qu'on va mettre sur les murs, etc. Et on va très loin dans dans l'acoustique, dans le traitement d'air, dans la luminosité. C'est des choses sur lesquelles on fait vraiment gaffe, parce que ça, à la fin, ça fait l'expérience de travail, quoi. Donc on a cette équipe immobilier. Aujourd'hui, c'est 3 asset managers qui gèrent ça, qui savent à la fois acheter, suivre la construction, et puis ensuite mettre à disposition des équipes opérationnelles un produit opérable, utilisable. Voilà. Du coup, on a une équipe opérationnelle, évidemment, en centrale, mais qui est vraiment dédiée au site, quoi. On a une organisation... c'est peut-être un traumatisme de Marseillais, mais de décentraliser, tu vois. Essayer de le faire au maximum et d'amener le maximum d'intelligence et de compétences au plus près du terrain, au plus près des clients, en évitant l'écueil de se dire bon, bah, le siège c'est tout et les gens vont exécuter péniblement. Ce qui en général amène l'effet inverse aussi de le central nous gonfle et qu'on prenne rien à ce qu'on fait sur le terrain. Voilà. Donc si on peut éviter ça, on a cette organisation là avec on a créé 2 régions. Alors ça fait toujours sourire aussi, nord et sud.
Où se trouve le sud?
Le nord démarre évidemment à Avignon.
Voilà, oui, c'est.
Non, il est plutôt à Lyon, mais voilà. Et donc on a, bah, au-delà des équipes opérationnelles qui englobent des trucs très, voilà, qui savent vraiment gérer le quotidien et l'expérience client. Et on a vraiment un pôle qualité du coup dans cette équipe opérationnelle. Ça englobe des achats, ça englobe de l'IT. On a une belle équipe marketing et communication qui est devenue importante pour évidemment communiquer en interne auprès de nos clients, mais aussi pour tout simplement attirer des clients en créant du contenu de qualité. Après c'est assez classique, hein, une équipe finance des équipes RH et évidemment maintenant qu'on est société à mission et qu'on va vers le B Corp, on a une équipe RSE. Qui est évidemment transverse, qui est pas, qu'on n'a pas coincé dans un bureau et qui a vraiment vocation qui a vraiment vocation à intervenir sur tout ce que je viens de te décrire.
Et comment est-ce que tu arrives à, justement avec l'évolution un petit peu des différents profils en interne, comment tu arrives à maintenir la cohésion sur le projet?
Ben, tu le disais, c'est juste, on a des profils différents avec tout ce que je t'ai décrit, plus toutes les personnes qui gèrent les sites ou à qui on ne demande pas d'avoir un CV particulier, on leur demande d'avoir un vrai savoir-être, qui est de sourire, qui est d'être au service, et le savoir-faire, on va leur apprendre. Voilà. Donc pour qu'il y ait une cohésion, on va certainement venir aussi au thème de la mission, mais moi je crois beaucoup à la cohérence, à l'exemplarité. Et donc il a fallu mettre des mots sur c'est qui nous, voilà. Nous on joue à quoi, enfin on croit en quoi, et dans quel cas on dit ça c'est ok, c'est nous, ça c'est pas ok, ça nous va pas, ça nous heurte, et c'est pas évident d'arriver à mettre des mots là-dessus. D'ailleurs au début tu le fais pas, enfin nous on l'a pas fait, mais tu fais par l'exemple, c'est-à-dire que t'es là et il y a du mimétisme. Il y a beaucoup de choses, d'où l'intérêt aussi d'être en présentiel et pas d'être tous en visio, tout le temps. Et puis après, au bout d'un moment, tu te poses trop de questions. Donc tu dis, bon, il va quand même falloir répondre et mettre des mots. Pour 2 raisons. Parce qu'on veut construire des immeubles qui nous ressemblent aussi et proposer une expérience qui nous convienne. Donc on voit plein de trucs cool sur Internet ou sur des magazines, mais est-ce que c'est nous? Non, c'est pas vraiment nous, donc c'est qui nous? Et qu'est-ce qu'on veut faire comme design, et on veut que ça ressemble à quoi nos immeubles? Et puis après, plus globalement, c'est quoi tes valeurs et c'est quoi ta mission? Et dès l'instant où tu arrives à la définir, tout s'éclaire, tu peux tout aligner et dire ah, ben non, mais là, maintenant, c'est pourquoi ça en fait nous gênait un peu, c'est qu'en fait, bon, c'est pas que c'est pas une cause qu'on doit défendre, mais c'est juste on la laisse aux autres et nous on va jouer à ça.
Alors, on va bien évidemment arriver à un moment donné sur la mission, même si d'une manière un peu périphérique, on en parle déjà un petit peu. Je voulais qu'on revienne avant sur le... Il y a un manifeste sur le site, qui est intéressant, qui est à la fois un peu poétique.
Et c'est pas moi qui l'ai écrit. J'avoue. Petite confidence.
Mais il y a une notion qui est vraiment qu'on retrouve à plein d'endroits dans ce manifeste, c'est la notion de dépassement. On y parle de aller plus loin, effacer les murs, se déployer partout. D'où vient cette notion et comment elle s'inscrit dans le quotidien de l'entreprise et même plus largement dans la culture aussi de l'entreprise?
Quand c'est sorti, j'ai lu ça, j'étais j'ai pas trouvé le bon qualificatif, mais j'étais assez content et pas ému, c'est trop, mais ça me faisait plaisir de lire ça. Quand je te disais qu'au début tu fais par l'exemple, évidemment, enfin, j'aurais du mal à être dans une boîte qui me ressemble pas du tout, et c'est évidemment des trucs qui me parlent à moi en tant que citoyen, en tant qu'homme. Et moi, je suis encore sportif, mais l'idée de se dépasser est quelque chose qui me parle vraiment depuis que je suis tout petit. J'aime bien la compétition, et j'aime bien aller plus loin, j'aime bien donner le meilleur de moi-même, et j'aime bien aussi que quand je joue, parce que moi j'ai toujours, bon, très cliché, je suis un footballeur, moi, tu vois, en tant que Marseillais, bon, évidemment, mais. Et j'ai toujours aimé me dépasser, donner le meilleur de moi-même dans des équipes où les autres font pareil. Et pour moi, c'est ça la vraie solidarité. C'est quand il y a des dépassements de fonction. je vais faire un peu le coach de foot là, mais. Je fais beaucoup de parallèles avec un sport d'équipe. Quand ton collègue il va rattraper la bêtise que tu as faite toi, même si à la base c'est pas son poste, quoi. Et ces parallèles là me parlent énormément pour avoir fait beaucoup d'années de football à un certain niveau, et j'ai été content de voir ça aussi arriver dans le manifeste de Newton. Aller plus loin, se dépasser, pour moi c'est ça. Quand tu vois l'orga que je viens de décrire, elle permet quand même l'idée c'est qu'il n'y ait pas de silos débiles, et que quand il y a des overlaps entre une équipe et une autre, les gens se parlent et à y céder, quoi. Et l'idée c'est quand même d'arriver aussi à créer ce contexte de confiance entre les salariés, pour que ce soit évident qu'il faut aller aider le collègue qui est en train de buter ou bloquer, parce que c'est moins son truc, et toi tu peux aller l'aider, même si à la base c'est pas ton truc, quoi.
Et dernière question avant qu'on passe plus spécifiquement à la mission. Donc Newton cherche à, je cite, accompagner les nouveaux modes de travail.
Ouais.
Comment ça s'incarne au sein de l'équipe de Newton?
Un bureau privatif par personne et personne ne se parle.
Ah ouais, ça c'est des.
Ah, mais révolutionnaire.
Ah, ouais, révolutionnaire, ouais,
ouais.
Là, c'est...
Loin, ouais, ouais. Ça va peut-être un peu trop, mais bon. Du coup, on essaie de pas être les coordonnées les plus mal chaussées. On est utilisateur de nos espaces Newton. Et donc, en fait, on a utilisé à peu près tous les étages de l'immeuble, parce qu'on va aussi un peu, on se déplace aussi au gré de la commercialisation. On fait à chaque fois la priorité aux clients. On utilise au quotidien nos espaces, à la fois pour nos bureaux privatifs, mais pour nos petites alcôves. Pour aller passer des coups de fil perso ou pro. Je fais toujours du sport, j'utilise beaucoup les douches, quand on peut pas faire du sport dehors, ce qui est un peu rare à Marseille, ce qui est plutôt sympa, on peut le faire dedans. Les services qui sont là, donc on fait évoluer aussi, voilà, c'est important pour nous d'avoir les doigts dans la prise et d'être utilisateur au quotidien de ces espaces, et même de faire des sondages. On fait des sondages nous auprès de nos salariés pour voir comment ils se sentent dans nos bureaux. Et on voit par exemple que là, l'espace de travail qu'on utilise depuis quelques mois est de moins en moins approprié, parce que problème de bruit, de plus en plus de visio. Et on voit que pas mal de membres de l'équipe sortent du bureau pour aller se poser dans les alcôves que justement on a mises pour ça. Mais qui ont un gros succès, quoi. Donc, et ça, c'est nouveau. Et ça, si t'es pas là en train de l'expérimenter, tu le vois pas.
Très bien. Je te propose qu'on passe à l'entreprise à mission, puisque donc Newton a fait le choix assez récemment de passer entreprise et mission. Si je... Parce qu'en fait, c'est...
Alors, on a officialisé récemment, ouais, voilà, c'est... mais ça faisait un moment qu'on l'avait formalisé. Mais après, comme, ceux qui te suivent doivent le savoir, c'est des formalités aussi, et ça, on a mis un peu de temps à les faire.
Oui, parce qu'officiellement, ça date du mois de mai.
Ouais, mais, bravo. Mais, ça faisait un moment qu'on avait la raison d'être.
Bah oui, parce qu'en fait, moi, en écoutant Extramuros, j'étais là, mais en fait, ça fait, je sais pas, plus d'un an.
Ouais, c'est
non, je me suis rendu compte qu'officiellement, j'ai dit, mince, il y a quelque chose qui m'a manqué là. Ouais, mais,
bravo.
Mais les démarches administratives, ça, j'ai envie de dire, peu importe. Mais déjà, pourquoi avoir fait ce choix d'aller vers l'entreprise à mission? Bah oui, déjà, commençons par ça.
Il y avait, ben, c'est vrai, tu as parlé d'orga et tout, et moi c'est vrai que je pense que je suis un dirigeant qui aime organiser les choses pour que les gens s'y sentent bien et puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, sans revenir sur le manifeste. Et il devenait assez évident à un certain moment du développement de Newton qu'il fallait revoir plusieurs sujets. On avait besoin de revoir notre plateforme de marque d'un côté. Et puis j'avais sincèrement envie d'aller de passer un niveau supérieur, un cran supérieur sur l'exigence environnementale de tout ce qu'on fait. Et du coup, il y a eu une rencontre avec Elisabeth Laville d'Utopie. Et alors que je ne pensais pas qu'on arriverait à faire tout de concert, on a pu revoir, tout remettre à plat, que ce soit cette plateforme de marque, mais surtout au-dessus, d'aller chercher vraiment une raison d'être et de remettre à nouveau des mots après quelques années d'expérience, de travail sur qui nous sommes et vers quoi on veut aller. Et c'est ce qui a amené du coup à définir une mission. Mais c'était pas le, tu vois, je suis pas allé arriver en lui disant je veux devenir société à mission. C'est je veux qu'on s'améliore et voilà ce qui devrait être réouvert comme chantier et parlons-en. Voilà.
D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment, il n'y avait pas forcément cette idée. J'ai entendu parler de ce truc là, l'entreprise à mission. Je me renseignais un peu. Tiens, allons là-dedans. Ça correspond bien à ce que je veux faire. C'est plus, on a pas mal de chantiers et peut-être que ça va nous permettre de mieux les structurer.
Ouais, tout à fait. Du coup, c'était une bonne surprise. Me semble-t-il du côté du cabinet Utopie, c'est que souvent on a déjà une charte et tout et on doit se glisser dans un truc existant et là c'est plutôt cool de pouvoir tout réouvrir et tout aligner quoi. Ouais. Et ça c'est quand même l'idée. Pour moi ce qui est hyper important c'est la cohérence quoi. L'alignement et c'est ça l'idée, c'est d'avoir défini une bonne raison d'être pour tout aligner, que ce soit tes recrutements, ce que tu dis, ce que tu fais. Une fois de plus tu peux on peut toujours te prendre en défaut, mais mine de rien, la volonté est là.
Alors avant qu'on rentre dans le contenu de la mission, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est KKR dans tout ça. Parce que en soi, KKR, acteur anglo-saxon, classique, j'ai envie de dire, acteur classique de l'investissement, il y en a qui peuvent se dire, ouais, moi j'ose pas trop parce que j'ai des investisseurs anglo-saxons au board, l'entreprise à mission, c'est un truc franco-français, ils vont rien y comprendre et ils vont se dire, oh là là, ça va gréver ma marge, etc. Comment est-ce que tu l'as présenté et comment est-ce qu'ils l'ont compris, comment ça s'est fait?
Mais faut pas partir du principe que c'est des monstres froids anglo-saxons qui comprennent rien, quoi. Déjà. Ouais, donc si tu réalises que c'est aussi des citoyens qui ont à peu près fait les mêmes études, les mêmes parcours que toi, enfin en tout cas que moi, déjà t'as un autre angle de vue et évidemment, non mais ça c'est... Déjà il y a une vraie confiance et ils sont pas en train de nous expliquer qu'il faut marcher à droite et pas à gauche, etc. Et non mais il y a pas, au contraire, ils étaient très contents de savoir qu'on allait vers ça.
D'accord.
Et même s'il y en a qui m'écoutent et qui ne me croient pas, dites-vous qu'à minima, c'est pas les honoraires, en tout cas l'argent que tu vas mettre pour faire tes frais d'administratif et payer un cabinet ou un super consultant. à minima, tu peux te dire que ça va défendre la valeur ça peut être aussi une vision défensive. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le regarder, mais tu peux te dire qu'au moins, t'as entre deux boîtes, une qui a défini une raison d'être, qui est société à mission, qui est peut-être bicorp ou pas, et une autre qui ne l'est pas. Bon, ben. Pourquoi est-ce que la société à mission serait moins bien et moins valorisée? En général, c'est plutôt le contraire. C'est pas parce que t'as payé XKE de quelques centaines ou milliers d'euros pour le devenir que ta boîte est moins rentable. Au contraire.
Et si on en vient justement sur le... Alors, t'en as un tout petit peu parlé déjà sur la raison de ce choix de passer entreprise à mission. En quoi c'est utile? Parce que tu dis, effectivement, ça a été officialisé assez récemment, mais j'imagine que déjà beaucoup de choses avaient été structurées avant. En quoi ça a été utile dans le développement de Newton? Qu'est-ce que ça a créé déjà d'un peu nouveau? Alors, soit en termes de réflexion, ouais, voire en termes de nouvelles offres.
Bah, du coup, t'embarques quand même. Je pense que la clé du succès, c'est de ne pas faire ça parce que la direction a décidé qu'il fallait aller vers ça et de faire descendre un truc. Façon un peu brutale sur toutes tes équipes, évidemment. Je pense qu'il vaut mieux embarquer tout le monde. Et donc, ça a déjà été cette phase de réflexion, d'interview, a permis d'embarquer tout le monde, de mettre tout le monde en mouvement vers cette mission qui était attendue et qui est devenue une évidence très naturellement pour tout le monde. Et après, c'est devenu hyper structurant parce que du coup, nous, j'ai toujours pas dit, du coup, quelle était notre...
Ben non,
notre
pas encore, non, pas...
On peut le dire ou quoi?
Vas-y, t'as le droit.
Suspense. On accompagne le déploiement de l'économie dans les villes et les territoires. Donc, ça a été structuré en trois piliers, et qui, du coup, sont hyper structurants pour nous, dans tout ce qu'on fait, et dans l'orga qu'on a, dans notre développement. Donc, pilier 1, quand on parle de déploiement, c'est le mouvement vers les régions. Ça peut être un pari vers les régions ou ça peut être au sein des régions. Les régions, c'est comme je te disais tout à l'heure, les quartiers d'affaires évoluent, les sociétés évoluent, et donc on accompagne ça en ayant plusieurs implantations dans les métropoles. L'idée, c'est pas d'avoir un immeuble à Lyon, un immeuble à Lille, c'est d'en avoir plusieurs à chaque fois. Les problèmes de mobilité locale, au moins tu peux avoir plusieurs options. C'est pour ça qu'on a fait le podcast Extramuros, c'est pour montrer que les génies ne sont pas tous à Paris, que les belles boîtes ne sont pas toutes à Paris, et qu'il peut y avoir des gens pas trop cons en région aussi, et avec de très très belles histoires entrepreneuriales. Ou alors, on a vu aussi, j'ai dû interviewer une bonne cinquantaine de dirigeants, que des boîtes avaient besoin de sortir de Paris pour continuer leur développement, parce qu'elles ne pouvaient plus se loger à titre perso, à titre pro, et elles ne trouvaient plus les talents nécessaires parce qu'il y avait trop de concurrence sur les mêmes profils à Paris. Et ça, c'est bon, voilà, on a plein d'histoires comme ça dans Extramuros qui nous ont raconté ça. Donc, pilier 1, mouvement vers la région. Pilier 2, ancrage local. Là aussi, pour pas que ce soit du gros pipeau, qu'est-ce que ça veut dire quand on est là, on joue collectif avec les voisins, quoi, le territoire qui est là. Ça se pense déjà en amont quand tu fais construire l'immeuble, ne pas faire un blocos replié sur lui-même, mais au contraire d'essayer dans la mesure du possible d'avoir une architecture ouverte sur la ville. Donc ça se pense avec le rez-de-chaussée, est-ce qu'il y a des commerces ou pas, où est ton accueil, etc. Et puis ensuite, le fait de continuer au-delà de l'architecture, l'animation de ton lieu pour que tu sois branché avec tous les commerçants du coin, les assos du coin. On a plein d'exemples de, bon, évidemment, plein de partenariats avec tous ceux qui sont autour de nous. On essaie de faire le plus local possible pour tout, pour les fruits, pour le resto, pour les hôtels, etc. Mais des assos qui... Nous, on a de la chance, on a des mètres carrés. Et le soir, en général, ils se vident. Donc, tu as plein d'assos qui, à l'inverse, ont besoin de venir utiliser pour leur cours de théâtre, de musique, pour le périscolaire, nos espaces. Donc, ça...
Ah, donc, ils ont chaque entité un peu une marge de manœuvre pour décider,
ouais,
des partenariats.
Les équipes sur site, en fonction de leurs affinités, peuvent aider le club de sport du coin, l'asso de théâtre, etc. Et puis, toujours dans plein d'exemples là-dessus, qu'on mesure, et puis tout le monde brainstorm, et dès qu'il y a une bonne idée, on la met en place assez facilement. Tu vois, une des dernières, c'est d'avoir un bureau impact, donc on a des bureaux, ils ne sont pas tous toujours pleins. On avoue, oui, voilà. Parfois, il y en a qui sont vides. Et on s'est dit, mais tiens, c'est plutôt. Enfin, dédions au moins un bureau par immeuble à une boîte de l'économie sociale et solidaire ou à des assos ou qui ont un vrai impact sur le territoire, puisque c'est notre, voilà, c'est notre raison d'être, les territoires. Et bien, on réserve un bureau pour ça, qui aura des conditions tarifaires canon pour profiter d'un lieu et d'un réseau, etc. Il y a plein de voilà, on fait pas mal de choses comme ça, donc c'est vraiment d'être un acteur du coin et un peu comme un engrais, quoi. Si on est là, mais on espère que ça pousse mieux que quand on n'était pas là. Dernier point, évidemment, la transition écologique. Donc là, tu vois, nous, on a acheté des immeubles, quoi. Donc c'est pas rien, tu vois. Faire construire 5000 mètres carrés, 10000 mètres carrés, ça bouffe de la matière, ça bouffe de l'énergie.
C'est un des principaux postes d'émission.
Ouais, et évidemment, pour mettre en place une trajectoire de décarbonation, on a mesuré. Et pour mesurer un truc qui commence à être connu, là, qui est le bilan carbone. Donc on a fait notre bilan carbone et je m'attendais à ce qu'on ait trois quarts de notre bilan qui viennent de ces fameuses constructions. Et en fait, une grande surprise a été de constater que c'est seulement un tiers. Alors je t'épargne les scopes 1, 2 et 3.
Enfin, je pense que les auditeurs connaissent, mais...
Voilà, mais en fait, bon, je te parle pas que de 1 et 2, parce que ce serait...
C'est trop facile.
Donc en fait, c'est beaucoup le scope 3, mais là-dedans, donc un tiers vient de la construction uniquement, tu vois. Et autre surprise, c'est qu'un tiers vient des déplacements de nos clients.
Ouais, c'est toujours ça, souvent.
Parce que, bon, ils ont pris des moyennes et on essaie de mesurer l'amélioration de ce critère-là. Mais c'est mes clients, c'est pas mes salariés. Donc, je suis pas là. Enfin, ça va être un peu dur de leur imposer des trucs, tu vois. Donc, on essaie d'expliquer, on essaie de sensibiliser, de faire plein de choses. La seule chose qu'on puisse faire, nous, c'est déjà bien choisir l'emplacement où on va se mettre pour être sûr qu'il y a des transports en commun. Ce qui est pas toujours le cas, hein, là aussi. Faire toujours gaffe évidemment à avoir des immeubles bien labellisés, ne plus artificialiser de sol, et mettre en place cette trajectoire. On a plutôt, du coup, comme on a des immeubles bien achetés, on a de l'avance sur certes, quand tu prends certains critères, il y a un label qui veut faire, en tout cas, il y a un critère qui est une méthodo qui s'appelle le CREM. Pour voir si on va vers un réchauffement planétaire d'un degré et demi ou deux et on a 15 ans d'avance, entre guillemets, sur ces critères-là, qui est une info, ça ne veut pas dire qu'on va rien foutre pendant 15 ans, au contraire, mais ça montre que déjà, une partie du chemin est plutôt pas mal fait.
Super négatif, quoi.
Et on est vers cette trajectoire de baisse de 20% de nos émissions d'ici 2026, de 40% d'ici 2030 et avec l'engagement pour tous d'être à zéro en 2050.
Pour terminer ce podcast, première question un peu plus personnelle, même si en soi c'est complètement lié quand même à ton activité. Donc tu es l'hôte du podcast Extramuros. D'où vient ce projet et quel lien tu fais avec l'activité de Newton?
Ça vient d'une discussion avec Jules, notre directeur marketing, qui écoutait pas mal de podcasts, et moi aussi. Et on avait fait un peu le même constat, on avait un peu la même frustration, c'est qu'on entendait beaucoup de belles histoires parisiennes, en fait. Et on avait envie de montrer qu'il y avait autre chose. Et donc c'est aussi simple que ça. Et on s'est dit, on va le faire. On va arrêter de se plaindre qu'on interviewe que certaines boîtes. Et nous, on va le faire. Et on va montrer qu'il y a de belles histoires d'entreprise ailleurs qu'à Paris.
D'accord. Et c'est vrai qu'en soi, je ne peux que le conseiller parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et des fois, je me dis, mince, c'est une entreprise à mission que je ne vais pas pouvoir interroger. ou alors, inversement, je me dis, en fait, il y a plus derrière cette entreprise que ce que j'avais perçu. J'ai en tête notamment un épisode récent, plutôt récent, avec GreenWiz. Mais il y en a d'autres aussi, avec Anywhere aussi.
GreenWiz qui a fait. J'en ai même pas parlé, mais GreenWiz a fait la convention des entreprises pour le climat qu'on a faite aussi récemment. Ouais.
Oui, c'est vrai que vous êtes dans la CEC aussi. Ouais. Et toute dernière question pour terminer, je finis toujours les épisodes avec le coup de cœur musical de l'invité. Ça peut être ton coup de cœur du moment, une musique que tu associes à Newton, une musique que tu associes à l'offre de déploiement sur les territoires, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu as choisi pour nous ?
C'est pas facile parce que j'écoute beaucoup de musique depuis longtemps. jouer de la musique étant plus jeune, et je m'y suis remis, un petit scoop, à la guitare, et donc je savais pas trop quoi choisir. Alors j'ai rien sur Newton, mais si c'était Newton, ça serait peut-être Fly Me to the Moon de Sinatra. Mais du coup, j'ai envie, en ce moment, j'aime beaucoup Sting notamment et Dominic Miller, et donc j'essaie de jouer Shape of My Heart à la guitare, qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est mon choix pour ce podcast.
Bah, on va l'écouter. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. Bah merci, ça faisait un petit moment que je n'avais pas écouté ce morceau, donc un grand merci pour ça, et surtout un grand merci pour ton témoignage, de nous avoir un peu transporté dans les bureaux de Newton au début, et de nous avoir expliqué un petit peu aussi à la fois l'entreprise à mission et d'une certaine manière aussi tout ce qui gravite autour de la mission, parce que c'est on le sent là, complètement intégré à l'offre de Newton Offices. Donc un grand merci à toi.
Merci Vivien.
Et puis je te dis à bientôt.
À très vite.
Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous repartez plein d'entrain, d'envie et de bonnes idées. Mais pas si vite. Et si d'autres pouvaient avoir la même pêche que vous après cet épisode? Pour ça, bah, c'est vous qui avez tous les moyens à votre disposition. Soit en notant le podcast, surtout sur Apple Podcasts ou sur Spotify depuis votre smartphone, soit en partageant cet épisode à votre entourage ou en faisant un post sur les réseaux sociaux, par exemple. En fait, c'est vraiment important parce que ça permet d'améliorer le référencement du podcast et également de le faire connaître à d'autres. Alors un immense merci par avance. Si vous avez des idées d'entreprise à mission à interroger, peut-être même la vôtre, contactez-moi directement sur LinkedIn, je suis toujours à l'écoute. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous plonger dans les précédents échanges, il y en a quand même quelques-uns maintenant, et à bientôt pour un nouvel épisode.